Césarée. Césarée Maritime. Cette ville qui était fondée par le roi Hérode le Grand. Mais en fait, avant Hérode, c'était que quelques champs et s'est dit que c'était un petit bourgade qui appartenait aux Phéniciens. Que le roi ou bien l'empereur romain Auguste César a offert au roi Hérode le Grand. Là, il faut aller un peu à l'arrière à l'histoire. Il paraît que dans la République romaine, avant qu'elle était l'Empire romain, il y avait deux pôles de la République, un certain Marc-Antoine et un certain Octavius. Plus tard, Auguste. Pour l'instant, il est encore Octavius. Oui. Alors, Marc-Antoine régnait en Orient et Octavius avec Cléopâtre et Octavius régnait en Occident. Hérode était nommé roi par Marc-Antoine. Il est en Orient. Il sera fidèle à qui? À Marc-Antoine. Mais finalement, avec le temps, c'est Octavius qui prenait le pouvoir de tous les deux côtés. Il sera le seul empereur. Et les gens d'ici, tellement ils détestaient Hérode, étaient très contents que ce Octavius qui sera nommé maintenant Auguste César allait tuer le roi Hérode. Mais cet Hérode était tellement grand et intelligent. Il n'avait pas peur d'aller rencontrer Auguste César. Et si je ne me trompe pas, c'était dans l'île de la Méditerranée, j'ai oublié, au sud de l'Italie, je crois, ou bien. Oui, c'est possible que ce soit à la Sicile, que là-bas les deux se retrouvaient. Et Hérode a convaincu Auguste César pourquoi il était fidèle à Marc-Antoine. En fait, il était fidèle à l'Empire romain. Et Auguste César avait aimé la parole et l'intelligence d'Hérode. Il lui a fait confiance, il a donné cet endroit. Et là, Hérode avait son rêve d'avoir cette ville romaine et ce port maritime qui était le premier port à la Méditerranée qui était artificiel. Bon, il paraît que mon collègue a besoin des îles, je continuerai, mais j'aime bien vous montrer les différents monuments. Vous avez tout d'abord le théâtre romain, le palais du roi Hérode, qui sera plus tard le palais de Ponce Pilate, l'hippodrome, et la ville des temps de croisée, y compris l'église byzantine et la cathédrale de croisée. L'église byzantine était là, se trouvait en temple du roi Hérode par ici, et les ports maritimes de ce côté. On peut voir le muraille de la ville romaine et le muraille de la ville byzantine, qui était la période la plus importante, la plus grande. Alors, Hérode maintenant prenait le pouvoir et allait construire la ville. Mais cette ville va connaître sa prospérité vraiment à l'époque byzantine. Mais déjà à l'époque romaine, elle avait une certaine importance, surtout à cause du port. Pour nous chrétiens, l'importance remonte aussi à l'époque romaine, grâce à deux des apôtres, les deux pôles de l'Église, Saint-Pierre et Saint-Paul. Saint-Pierre était appelé de la part des centurions romains qui étaient à Césarée pour lui interpréter une vision qu'il avait lui-même. En même temps, Saint-Pierre avait une autre vision à Jaffa. Et être appelé ici, il a compris la vision qu'il avait à Jaffa. Et il a expliqué ce qui s'est passé avec Jésus et la Bible, l'Évangile. Et il a baptisé Corneille, le centurion romain, et toute sa famille. Et c'était le premier chrétien hors de la communauté juive. Le premier chrétien hors de la communauté juive. Pour cela, le site de Césarée Maritime est très important pour les chrétiens de l'Europe. Parce que c'est le premier chrétien d'origine européenne qui était converti au christianisme. Et deuxièmement, le voyage de Saint-Pierre et Saint-Paul pour évangéliser l'Europe. Et se sont partis par le port de Césarée Maritime. C'est nous dit que dans l'histoire que au temps de la première révolte juive et à la deuxième, les juifs de Césarée ne prenaient pas part avec les juifs du pays. Ils sont restés neutres et ainsi la ville pouvait tenir et elle était prospère. Et il paraît qu'à la fin du deuxième siècle, commencement du troisième siècle, au niveau importance chrétienne, il y avait l'arrivée d'un certain Origène. Origène, c'est bien fameux, c'est un nom qui est un peu brillant. Mais j'aime bien vous dire que c'était un fanatique du christianisme qui était exclu plus tard de l'Église à cause de son fanatisme. mais quand même, c'était quelqu'un qui a fondé une école théologique chrétienne par ici. Et à l'époque byzantine, Césarée était devenu un évêché. Il y avait déjà un évêque de Césarée. Parmi ces évêques, c'était Saint Eusèbe, qui était le professeur de Saint Jérôme, celui qui allait traduire la Bible à Bethléem. À l'époque arabe, la déclinaison, il y avait le retour chrétien au temps des croisés avec Saint Louis. De nouveau, il a construit une deuxième ville, mais plus petite, beaucoup plus petite que la Césarée romaine. Mais finalement, c'était conquis par les Mamelouks. On m'a demandé ce matin, c'était qui les Mamelouks? C'était une dynastie plutôt d'origine esclave chez les Égyptiens qui ont pris une certaine importance et pouvoir, qui ont conquis les Meroul, on dit Meroul en arabe. Je cherche, c'était un peuple qui n'avait pas de culture, qui détruisait beaucoup de choses au Moyen Âge. On l'appelle aussi Tatar. Les Tatars, oui. Et grâce à cela, ces gens, ils ont gagné une importance et ils sont devenus les rois et les maîtres du pays. Ils se trouvaient plutôt en Égypte, en Palestine et dans le pays de Cham, ça veut dire la Syrie. Et c'était ce qui était avant les Ottomans, après Saladin et avant les Ottomans. C'était 13e, 14e siècle et c'était au 13e siècle que la ville de Césarée-Maritime est tombée dans les mains de Bébars. En 1265, quelques années avant la conquête de Saint-Jean d'Acre. Et je peux dire qu'après cela, la ville est tombée dans l'oubli. C'était vraiment trop petit, qui n'avait pas d'importance. Et à l'époque ottomane, les Ottomans, ils ont cherché des musulmans bosniaques à habiter ici, qui ne sont pas restés beaucoup de temps. Et en 1917, on ne trouvait plus personne car c'était sous la contrôle anglaise qui a transformé tout cela dans un champ archéologique. Il n'y avait pas d'habitation. Il y avait l'investissement à la fin de l'époque ottomane aussi, mais au commencement de l'époque des mandats britanniques de la famille Rothschild. Et ils ont acheté les terrains. Et plus tard, on a fait les fouilles dans les années 50 et 60 et 70 et 80 de ces derniers, dont le site nous a dégagé cette très belle ville de Césarée-Maritime à la Romaine. Alors, au commencement, on va rentrer pour voir ce théâtre qui remonte, certains disent qu'il remonte vers le deuxième siècle avec point d'interrogation. Ok? Cette pierre est une évidence de l'historicité de Jésus, que Jésus de Nazareth existait vraiment, même si on n'a pas les mentions du nom de Jésus. Vous arrivez à lire? Il y a une sculpture sur cette pierre. Elle a le mot de Tibère. Et je m'intéresse au prénom, en fait, oui. Et là, c'est écrit. Ce qui est entre parenthèses, je crois, c'est ce qui
Ah
est
oui,
manqué.
Ponce Pilate.
Pontius Pilatus.
Oui.
Ponce Pilate.
Le préfet de...
Et le préfet de la Judée, je crois, je ne sais pas
Oui,
quoi.
oui,
Et
je m'en vais.
là, il y a Tibère, Tiberium. C'est dit que ce Pierre dit que ce palais était inauguré de la part de Ponce Pilate à l'honneur de l'empereur Tibère. Et Jésus, à quelle époque il vivait? À cette époque-là, exactement. Les personnages autour du personnage Jésus, parce que je peux dire que l'évangile s'est inventé par les chrétiens, c'est le seul livre qui parle de Jésus de l'époque. Alors là, dès qu'on trouve les deux témoignages, ou bien cette pierre qui témoignait la même époque avec les deux noms qui sont équivalents avec l'écriture de l'évangile, oui, je peux dire que c'est une ressource de l'historicité des personnages de Jésus. Maintenant, c'est la question, c'était Dieu, le fils de Dieu, c'est autre chose, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Mais au moins, il y a les épreuves historiques de l'existence de Jésus. Non, je ne sais pas comment vous me regardez, mais j'aime bien vous dire que je ne me repose pas.
Non.
Je fais une démonstration de travail.
Des
déjà, monsieur a compris.
À la turque.
On dit pas que ça. On dit
non, pas à la turque, à la romaine.
Les Turcs, ils sont rien
nous
inventé.
Sommes à la latrine ici, tous les quatre. Et à savoir que la latrine, était un endroit très important à l'époque.
C'est pour le sud-ouest.
Vous Français, quand vous avez une affaire, un bon affaire à signer, très souvent, c'est à table, autour d'un repas. Chez les Romains, c'est autour des latrines. Eh oui, c'était le lieu de rencontre officiel et c'était le lieu de rencontre entre les gens. C'est là qu'ils se retrouvaient ensemble et discutaient. Et c'était public.
Louis XIV recevait ses ambassadeurs sur sa chaise percée.
Sur sa chaise.
Sa chaise percée, c'est une latrine.
Après cela, nous continuons vers Jérusalem. Pour le dîner et pour la nuit, nous sommes accueillis au foyer grec catholique à Jérusalem. Le lendemain matin, nous repartons pour Bethléem.
On dit de représenter la croix par terre. Tout simplement, c'est par terre, on peut marcher dessus. Là, je vous invite à repasser par où nous sommes sortis, par la chapelle arménienne, pour passer à l'église catholique. C'est lors du deuxième intifada, ils sont venus avec les armes, qui a causé qu'Israël a assiégé la basilique pendant 40 jours à la suite. Et à la fin, on a achevé un compromis qu'un certain nombre sera expulsé à Gaza, une trentaine, 36, je ne me trompe pas, une quinzaine qui sera expulsée en Europe. Et que le pays européen a reçu quelques-uns, mais je salue la France qui n'a reçu personne. Ici, c'est vraiment, les gravelis sont plutôt des temps de croisés, mais c'est plutôt un os tardif que les croisés, et c'est arabe, mais chrétien. Bon, nous allons tourner maintenant à gauche pour aller dans l'église, dans la partie catholique.
Ici, c'est la partie arménienne.
Et là, nous sommes dans la chapelle arménienne.
Voilà, tu es chez toi.
Ben voilà.
Il y avait un tapis avant là.
Ah ouais.
Ils l'ont enlevé.
À cause de travaux.
Et tu dirais pas qu'on est dans la chapelle arménienne, ça se devine pas, il n'y a pas de signe.
Ah ben l'hôtel, mais il est couvert l'hôtel.
Oui, les hôtels à cause des Caraïbes sont couverts, les hôtels arméniens de cette manière avec le noir. Oui, vraiment, on ne peut pas distinguer une église arménienne ici. Et, parce que c'est vraiment petit.
Ouais. À la veille Pascal, ils ouvrent les... Bon, très peu.
Oui, c'est très minoritaire, les Arméniens ici. Minoritaire, marginal. Les amis, malgré que cette chapelle est arménienne, mais j'aime bien vous dire que puisque l'église catholique est de ce côté-là, le passage appartient à l'église catholique. Un passage de largeur de 2 mètres. Vous rigolez, mais vraiment, ça peut causer des grands soucis entre les deux communautés. Alors, tous les matins, avant l'ouverture de la grotte, il y a le nettoyage. Alors, les Arméniens nettoient sur les deux côtés, mais le couloir, c'est nettoyé par les catholiques.
Oui.
Les Arméniens nettoient les murs, mais les orthodoxes nettoient à l'auteur.
Oui.
Et chacun doit nettoyer chez lui. Et s'il nettoie chez l'autre, ça veut dire qu'il veut l'avoir pour lui. Ça voilà. Peut causer des problèmes.
C'est pour ça que des fois, ils se tapent dessus.
Ben oui.
Les amis, maintenant, on va passer dans la partie catholique et dans le silence. Regardez bien l'église, c'est l'église de la messe de minuit de Noël tous les ans, qui est transmise par la télévision.
Ah, c'est là.
Je vais passer un peu plus loin à droite pour vous montrer, les reliques de la mangeoire et aussi la statue de l'enfant Jésus. Qu'on peut toujours voir le jour de Noël. Nous sommes ici dans les grottes Saint-Jérôme. Mais la grotte Saint-Jérôme sera plus dedans à notre gauche. Mais là, c'est l'ensemble de grottes. Et j'aime bien vous dire que c'est la continuation de la grotte de naissance de Jésus, de l'Antiquité. Maintenant, la chapelle à l'auteur là derrière moi, elle est dédiée à Saint Joseph. Je ne sais pas si on peut voir la peinture, ça nous représente le deuxième songe de Saint Joseph, de prendre l'enfant Jésus et de partir vers l'Égypte. Pourquoi? Parce que Hérode voulait tuer l'enfant Jésus, par peur pour sa trône. Et la tradition de Saint Matthieu nous dit que Hérode a envoyé ses soldats. Il a massacré les enfants de Bethléem, moins de 2 ans, pour que soit sûr qu'il a tué Jésus. Et par la tradition, la grotte là-bas, et en dessous de la grotte Saint-Joseph, vous avez ce tombe, dites le tombe des saints innocents de Bethléem. Mais j'aime bien vous assurer qu'il s'agit de tombeaux de plus adultes que les enfants de Bethléem, et que c'était que la tradition, et ces adultes étaient comme Saint Jérôme et d'autres qui voulaient vivre, et après leur mort, qu'ils soient enterrés par, ou bien tout près du lieu saint. Et le lieu qui nous sépare de la grotte, c'est le mur construit par les mains des hommes ici. Ok? Et maintenant, je vous invite à rentrer par ici pour voir la grotte Saint-Jérôme, le lieu de la traduction de la Bible. Oui. Imagine pas que vous avez une grande connaissance de Saint-Jérôme. Mais j'ai appris que Saint-Jérôme est lié au diocèse de Toulouse. Toulouse, c'est pas loin de chez vous. Non, pas loin. C'est pas qu'il est lié exactement, mais je crois qu'il est représenté dans la cathédrale, ou bien un de ses disciples est allé là-bas. J'ai entendu parler cela d'un groupe de Toulouse que j'ai guidé. Ouais. Saint-Jérôme, en fait, était de la Macédoine. Il avait toujours son désir personnel de venir en Terre Sainte, mais il ne pouvait pas. Mais finalement, c'est le pape qui l'a envoyé à Bethléem pour faire la traduction de la Bible. Alors, il était missionnaire, envoyé par les papes. Et il est arrivé à Bethléem en 383. Et il a appris l'hébreu de la part de, à travers les mains de son ami rabbin, celui qui a appris l'hébreu. Et plus tard, il a fait la traduction de la langue hébraïque, il s'agit surtout de l'Ancien Testament, de la langue grecque, il s'agit surtout de quelques livres du Nouveau Testament, et il les a traduits dans la langue latine, qui est la langue officielle de l'Église catholique. À l'époque, il n'y avait pas une Église catholique ni une Église orthodoxe, c'était l'Église. Et figurez-vous qu'un homme a fait la traduction tout seul pendant une trentaine d'années, il a très bien fait. Bon, peut-être il avait quelques fautes. Par exemple, hier, j'ai évoqué Emmaüs, 60 stades ou bien 160 stades, mais ce n'est pas important. Il y aura pas d'autres petits soucis qu'on peut se réfléchir bien, on peut chercher, on peut trouver. Mais à la fin, aujourd'hui, on a plusieurs comités qui font la traduction de la Bible. Ils commettent des fautes plus graves que celles de Saint-Jérôme. Et oui. Saint-Jérôme vivait dans ce petit espace, et je viens vous assurer que l'espace est encore plus petit. Comment? Si vous regardez derrière, il y a un escalier, et l'escalier n'arrive pas jusqu'en bas. Je n'imagine pas que le niveau était à l'auteur. Mais non, on a coupé l'escalier pour agrandir un peu l'espace, et ça veut dire que l'espace était plus petit. Il est arrivé, je répète, 383, il est resté jusqu'à sa mort, en 417. Et après sa mort, elle était enterrée à Bethléem, toujours tout près de ce lieu. Une fois qu'on est sorti dehors, au fond du couloir à droite, se trouve le tombeau de Saint-Jérôme. Mais il n'est pas dedans. Parce que c'est toujours le même problème de croisée. Non, il n'est pas resté. Peut-être pas l'esprit, je ne sais pas, je ne peux pas juger. Et c'est les croisés qui l'ont pris avec eux. Et aujourd'hui, il se trouve enterré dans l'église Saint-Jérôme à Rome. Maintenant, nous allons repasser vers là-haut. Et j'aime bien de nouveau que vous regardez bien l'église de Sainte-Catherine, l'église de la messe de minuit de Noël. Arnaud était un peu enthousiaste, mais dire c'est là que venait Arafat, oui. Et à ce sujet, j'aime bien qu'on se retrouve dans le cloître pour dire le reste de cette histoire de messe de minuit de Noël. Et parler un peu plus de détails de Bethléem et la messe de minuit. Ok? Bien, c'est pas. Pendant la messe de minuit de Noël, eh bien, tout d'abord, avant de parler de cette messe, j'aime bien vous rappeler que le nom de l'église, et cette église est dédiée à Sainte Catherine d'Alexandrie. Je ne sais pas si vous connaissez bien cette sainte, elle était vierge et martyr. Elle était la fille du gouverneur d'Alexandrie à l'époque romaine. Et selon le coutume, son père l'accordait au mariage à un de ses officiers. Mais elle, elle était chrétienne. Elle ne voulait pas de ce mariage. Elle voulait se consacrer à Dieu. Le père ne pouvait pas accepter ça. Il voulait lui convaincre de ce mariage. Avec le bien, ça n'a pas marché. Finalement, toujours avec le bien, il a enfermé avec 50 philosophes pour lui convaincre de ce mariage. Le temps est arrivé d'ouvrir les portes. Les portes étaient ouvertes. Les 50 philosophes sont sortis chrétiens et elle n'était jamais convaincue de ce mariage. Pour cela, Sainte Catherine est une des patronnes des philosophes. Je ne sais pas si nous avons des philosophes parmi nous.
On est tous des philosophes,
je suis tout à fait d'accord, mais je parle de profession. Je ne parle pas de connaissances. Oui, c'est vrai, on est tous des philosophes. Mais la philosophie peut être bonne ou bien elle peut être mauvaise. Ouais. Les amis, les pères franciscains ont choisi Sainte Catherine d'Alexandrie qui soit la patronne de l'Église, tout simplement qu'elle tenait la faculté de la philosophie, de la faculté de philosophie de leur séminaire ici à Bethléem. Il paraît qu'ils ont changé récemment, mais depuis le commencement, c'était la faculté de philosophie de Père Franciscain était ici à Bethléem. Deuxièmement, je ne sais pas si vous remarquez la décoration de la porte. Ça ressemble à quoi? Comment? Une roue. C'est une roue. Et en fait, c'est la manière à laquelle Sainte Catherine était martyrisée. On a laissé le roue du chariot passer sur son corps plusieurs fois. Et oui, elles étaient sympas, mais c'était les méthodes de l'époque, il paraît. Et à savoir que aussi le lampadaire qui faisait l'éclairage de la basilique de l'église était fait à la forme du roue. Mais malheureusement, après la restauration en 2000, ils ont enlevé. Mais moi, je trouvais que c'était symbolique et très beau aussi. Maintenant, pour la messe de minuit de Noël, Arafat, il venait pour la messe de minuit quand elle était présidente. Sauf les trois dernières années, il n'est pas venu parce qu'elle était assiégée à Ramallah. Et on a gardé sa place vide avec son kéfier. Celui qui a remplacé Arafat, Mahmoud Abbas, vient aussi pour la messe de minuit de Noël. Maintenant, est-ce que c'est tous les deux aimaient bien venir? Je peux vous dire que oui. Mais j'aime bien vous dire que aussi, c'est le protocole qui exige qu'elle soit là pour la messe de minuit de Noël. Le protocole exige que le chef de l'autorité locale soit présent pour la messe. Et ça remonte à l'époque ottomane. Alors, avant Arafat, avant Mahmoud Abbas, se trouvaient les Israéliens. Et à la tête, c'était le président de ce qu'on appelle l'administration civile. Vous vous rappelez de cette parole, je vous ai dit, c'est le piège. Oui, le monsieur, le président, venait avec son uniforme militaire. Et moi, comme j'étais l'enfant de cœur de patriarche, quand j'étais au séminaire, je le voyais très souvent. Alors, et plus tard, avec Arafat, j'étais déjà parti au séminaire. Alors, oui, les Israéliens, avant eux aussi, c'était les Jordaniens, ça remonte aux Anglais et aux Ottomans. Deuxièmement, qui se trouve à côté des présidents de l'autorité locale présent à la messe? Le maire de la ville. Quelle est la population de Bethléem? 40 000, et à peine. Certains disent même 28 000, mais moi je doute. Je crois qu'on est 40 000 habitants à Bethléem, avec une majorité musulmane de plus que 65%, malgré que Bethléem était une ville chrétienne à 100%. Aujourd'hui, c'est une ville majoritaire musulmane. Mais malgré cela, et ce voulait depuis le temps d'Arafat, et ça continue avec Mahmoud Abbas, et c'était le cas avant le 2, qu'on voulait garder le caractère chrétien de la ville. Et pour cela, pour les élections municipales, nous avons des quotas. Pour nos élections en général, nous avons des quotas. C'est vrai qu'il y a une loi, mais il y a aussi des quotas dans la loi. Le premier quota que la poste de M. le maire doit être donné aux chrétiens de Bethléem. Alors un musulman n'est jamais possible pour lui qu'il soit élu maire de Bethléem. Un peu comme les bons, certains postes, oui, le partage. Bon. Deuxièmement, à côté de M. le maire, on doit avoir l'autre moitié du conseil municipal. On a 15. On enlève un, celui des maires. Ça reste 14. 7 sont donnés aux chrétiens et 7 autres sont donnés aux musulmans. Quand même, on est majoritaire en plus dans le conseil municipal de Bethléem. Deuxième quota, pour faire plaisir aux femmes, c'est le quota des femmes. Je ne sais pas comment ça passe avec vos élections. Je crois dans les listes.
Mais c'est moitié-moitié.
Moitié-moitié.
Ça devrait.
Ouais. Maintenant, vous les femmes, vous êtes plus fortes en France.
Oui.
J'espère que les nôtres deviendront les mêmes.
Oui.
Le quota des Chinois impose que de 15 conseillers, on doit avoir 3 femmes. Mais si on a 4, c'est pas mal, c'est encore meilleur. 5, c'est encore meilleur, meilleur. Oui, je voulais dire que Vera Baboun, qui était le maire de Bethléem, la dame, a écrit un livre qui était traduit en français avec le titre « Bethléem, ma ville emmurée ». Il parle de la vie quotidienne des gens de Bethléem et je crois que c'est les éditions Bayard. Les amis, on a bien pris notre temps, on avait vraiment de la chance. Laissez-nous maintenant revenir à la gare de bus pour prendre le car pour aller au champ des bergers pour célébrer notre messe et visiter le champ des bergers là.
Que l'on croit très fort au ciel.